Okay. Alors, bienvenue à tous et toutes dans ce podcast qui a pour intention d'inspirer, d'encourager de nouvelles manières de faire et d'être au monde plus respectueuse des ressources du vivant. Ce podcast, je l'ai créé il y a pile un an et un de mes objectifs, c'était de partager des histoires et des parcours de vie inspirantes, d'interviewer des personnes qui osent être à l'écoute de leur nature profonde et qui entreprennent des projets de cœur qui révolutionnent nos manières de penser et qui nous montrent qu'un autre monde est possible. Avec ce podcast, j'interviewe aussi des experts de certaines thématiques pour apporter des clés de compréhension sur nos fonctionnements humains et aussi pour mieux comprendre en quoi un travail personnel peut contribuer à l'émergence d'une société nouvelle. Alors aujourd'hui, j'accueille avec joie Christian Junot, l'expert de notre relation à l'argent. Alors, Christian, je suis très excitée et aussi très chahutée à l'idée d'échanger avec toi. Tu as quand même une certaine notoriété, tu as écrit plusieurs livres et tu es connu dans le milieu du développement personnel. C'est carrément fou pour moi de t'avoir au micro aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, comment est-ce que on en est arrivé là? Comment est-ce que Christian, tu te retrouves face à moi aujourd'hui? Eh bien, simplement, tu as suggéré de demander. Donc en fait, j'ai participé au cycle d'ateliers que tu as offert cet hiver. Dedans, il y avait plusieurs modules pour questionner évidemment notre relation à l'argent. Et dans un de tes modules, tu as partagé dans une de tes vidéos le pouvoir du ask ou le pouvoir du demander en disant que bien souvent, on n'ose pas poser une question par peur de recevoir un non. Et ce que tu partageais, c'est que c'était pas nécessairement le nom le problème, mais plutôt toutes les histoires que l'on se raconte autour de ce nom, du genre, oh, il m'aime pas, je suis pas assez intéressante, bla bla bla. Alors du coup, parce qu'on n'a pas été habitué à gérer le non, on préfère rester sur place, pas s'aventurer et ne rien faire. Alors, nourrie par ta réflexion, j'ai pris du recul avec mes petites voix intérieures et celles qui me disaient notamment qui j'étais moi finalement pour te proposer un podcast. Et je t'ai demandé si tu serais partant et magie, tu as dit oui. Youhou! Donc voilà, je voulais déjà je te remercier pour ça. Merci de prendre ce temps avec moi. Et avant de te donner la parole, je vais peut-être juste dire quelques mots sur ce qui m'a poussée à vouloir échanger avec toi. Pour ceux qui découvrent ce podcast, moi je suis Hélène, j'ai 34 ans et à la suite d'un gros burn-out qui aura duré 2 ans et demi, j'ai fait un énorme reset de ma vie. J'ai pas mal questionné le sens du travail, de notre société et des modèles dominants. Et j'ai cru pendant très longtemps que j'étais folle d'espérer que l'on puisse créer un monde différent. J'étais un peu prisonnière de mes pensées et croyances limitantes, et j'avais du mal à oser affirmer que je ne me retrouvais pas dans les cases de ce que la société proposait. Je me considérais comme inadaptée et ça a généré une très grosse souffrance. Et au fur et à mesure de mes rencontres, de mes lectures, d'un cheminement personnel, d'un accompagnement thérapeutique aussi, en fait, j'ai découvert que beaucoup plus de personnes que je ne croyais étaient dans le même cas que moi et œuvraient justement à un changement de paradigme et à la création d'un monde beaucoup plus juste et plus harmonieux. Alors, en étant inspirée par ces gens qui osent s'engager et défendre leurs valeurs tout en entreprenant des projets de cœur, eh bien, j'ai moi aussi pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de lancer mon activité. Alors voilà, en lançant mon activité de cœur, eh bien, j'ai évidemment été envahie par plein, plein, plein de sentiments divers et variés, notamment de peur qu'on abordera juste après avec Christian. Et j'ai eu envie de travailler ma relation à l'argent pour pouvoir dépasser certains plafonds de verre, comme tu les appelles, Christian. Alors, je comprends tout l'intérêt de travailler mon rapport à l'argent et donc mes croyances pour arriver à atteindre mes objectifs. Mais je reste aussi très sensible aux crises systémiques que l'on vit et j'ai une très grande conscience écologique et j'ai parfois du mal avec certains discours de créer plus pour gagner plus, qui résonnent pour moi fort le capitalisme et ce qui en découle comme relation de domination et d'exploitation par rapport aux ressources humaines et environnementales. Du coup, ce que j'aimerais faire avec toi aujourd'hui, Christian, en partie, c'est approfondir la place de l'argent dans une société qui nous invite à la sobriété, en quelque sorte à une certaine décroissance, car, eh bien, on le verra après, mais les ressources de la planète ne sont pas inépuisables et ne se renouvellent pas au rythme auquel on les exploite. Voilà. Et ce que j'aimerais aussi aborder avec toi dans ce podcast, Christian, eh bien, c'est tout ce que l'on entend quand on parle d'abondance, d'énergie, d'amour. Voilà, j'ai envie de creuser aussi avec toi comment un travail individuel sur notre relation à l'argent peut éventuellement apporter des changements collectifs et contribuer à faire émerger un nouveau paradigme sociétal. Alors voilà, Christian,
Quel programme, quel programme. Bonjour Hélène, déjà merci. Merci de ton invitation. Je sais pas combien d'heures tu as prévu, on va voir ça. Et
c'est surtout.
en t'écoutant, je me disais que tu parlais d'être inadapté. Je me disais, mais quel bonheur que tu sois inadapté à cette société-là qui rend les gens un peu malades, qui nous met dans des cases, en tout cas d'une certaine manière. Effectivement, si on n'est pas vigilant, attentif, on ne met pas un peu de conscience à ce qui se joue. Et voilà, alors j'entends bien à quel point ça peut être inconfortable parfois, et je vois aussi à quel point c'est important aussi de s'autoriser à cela.
Tout à fait. On y reviendra et peut-être que tu peux, dans un premier temps, juste en quelques mots, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et peut-être rappeler, enfin, nous raconter comment tu en es venu en fait à t'intéresser à cette thématique qui est l'argent aujourd'hui.
Alors, je dirais que je m'amusais à t'écouter en disant, ben moi, alors bon, on a une bonne génération de différence, puisque tu as l'âge de mes enfants. Et moi, je suis tout le contraire. Moi, j'étais hier en analyse transactionnelle, elle dira, un enfant adapté, soumis. Tu vois, vraiment, voilà, on me donne des règles et j'étais très obéissant. Donc, j'étais vraiment tout l'inverse de toi, même si en moi, j'ai pu voir, c'est depuis 2020 qu'il y avait un côté rebelle qui s'est bien réveillé durant ces 2, 3 années. Parce qu'il y a des choses, j'étais plus d'accord d'accepter n'importe quoi. Mais donc moi, je suis économiste de formation, j'ai fait une licence en sciences économiques et je suis entré dans le milieu de la banque un peu par défaut, dans le sens que comme je ne trouvais pas de travail, j'étais au chômage, j'essayais un peu tous les secteurs sauf la banque. Et puis au moment, il restait plus que la banque et eux, il y en a bien une qui a voulu de moi. Donc j'y suis allé et je ne pensais pas en faire aussi longtemps. J'ai fait 23 ans dans 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc moi, j'ai eu affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne. Or, pourquoi j'ai tenu aussi longtemps? Le mot tenu, d'ailleurs, assez intéressant, important, je pense, un, parce que j'avais suffisamment ou une assez grosse peur de manquer, même une, je peux enlever le assez, une grosse peur de manquer malgré d'excellents revenus, qui fait que quand on a peur de manquer, c'est difficile d'oser sortir de quelque chose qui est plutôt confortable financièrement parlant, parce que c'est bien juste financièrement parlant qu'il s'agit, pas du reste. Ça, c'est, je pense, la première chose. La deuxième chose, c'est que, au fond, je voyais qu'avec mes clients, avec le recul, qu'il y avait un peu un côté psy chez moi. C'est-à-dire que les gens venaient dans mon bureau, on parlait de plein de choses et pas beaucoup de placements, parce que moi j'adorais parler de la vie, de plein de profondeur, voilà, de ce qu'on vivait, etc. Et j'ai vu plein de clients pleurer dans mon bureau, on m'a partagé leurs problèmes personnels. Donc voilà, quelque chose d'un peu atypique, je dirais. Je pense que j'étais un banquier assez atypique à cet endroit-là. Donc ça faisait que, avec le recul, j'ai vraiment vu que mes talents, je dirais, d'accompagnant, ils étaient déjà à cet endroit-là, mais dans ma capacité à créer de la confiance avec les personnes. Et enfin, j'ai comme changé de métier parce que j'en pouvais plus. Je commençais à faire du coaching à la banque et en 2009, j'ai été licencié suite à la fameuse crise des subprimes. Et c'était pour moi quand j'étais avec un Belge d'ailleurs ce jour-là, qui était à la maison chez nous. On a ouvert une bonne bouteille le soir même pour célébrer mon licenciement en me disant enfin une nouvelle vie qui s'ouvre à moi et ça va être super. Parce que ça faisait 10 ans que je faisais ce qu'on appelle du développement personnel. J'ai fait beaucoup, beaucoup de communication violente. De là, le Ask, Ask, Ask de Marshall Rosenberg et son créateur. Je me suis formé aux approches systémiques. Après, je me suis formé au coaching. Je me suis formé à différentes choses. Et la relation à l'argent, elle est venue à moi parce qu'en 2006, suite au fameux atelier que j'ai fait avec Marshall Rosenberg, justement, un gars est venu faire une conférence un soir sur la relation à l'argent. Il s'appelle Peter Koenig, qui a fait des années de recherche sur ce thème-là. Et je suis devenu son organisateur de 2007 à 2010. Et puis après, il m'a dit, c'est bon, Christian, tu peux faire ça à ma place aussi. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur ce domaine. Alors, j'avais aucune intention. un jour de travailler la relation à l'argent, mais entre-temps, j'avais grandement atténué ma peur de manquer, ce qui fait que j'étais beaucoup plus serein malgré absence de visibilité dans mes revenus. Et je voyais que ça changeait tellement ma vie que je me disais que c'est dommage que d'autres également s'empêchent de faire le pas du métier de cœur pour des questions d'argent, de peur d'argent. Et ça m'a vraiment motivé à faire ça. Et aujourd'hui, c'est devenu mon activité de base qui fait que je suis reconnu sur ce thème-là. Voilà.
Alors, bon, j'ai plein de questions là qui me viennent, mais je les poserai après parce que j'ai quand même envie de rebondir sur ce que tu dis par rapport à la peur de manquer. Je pense que, enfin, j'ai envie de te partager quelque chose qui est très très présent en moi en ce moment même, au moment où je te parle. J'avais pas prévu d'aborder ce sujet-là en fait, au moment où j'ai préparé ce podcast, mais voilà, la vie me rattrape et comme tu l'as dit juste avant qu'on appuie sur le bouton d'enregistrement, quelle coïncidence que je sois dans cet état émotionnel et en train de traverser ce que je traverse et que je te vois aujourd'hui. Et puis de toute façon, je pense que voilà, ce que je vais aborder maintenant va certainement résonner chez plein de gens. Donc en fait, je me retrouve dans une situation maintenant hyper inconfortable parce que je viens ce matin d'avoir une réunion dans laquelle, eh bien, on a annoncé que mon contrat de travail ne serait pas reconduit. Pour être plus exact, c'est moi en fait qui ai pris la décision que mon contrat ne se reconduise pas. C'était un mi-temps et en fait, ce mi-temps, il était destiné à eh bien nourrir mon besoin de sécurité et en même temps, qui dit mi-temps dit pouvoir justement avoir du temps sur le côté pour me permettre de développer mon activité de cœur. Voilà. Alors, ça s'est pas vraiment passé comme ça parce que ce mi-temps, eh bien, a pris énormément de place dans ma tête et d'un point de vue émotionnel, ça m'a demandé énormément d'investissement émotionnel et psychologique. Et ça a généré énormément d'anxiété et je me suis dit, en fait, j'ai plus la place de, enfin, mes jours de temps libre, je n'avais plus le temps, si tu veux, d'allouer mon temps à mon projet de cœur, j'avais plus du tout l'esprit clair, etc. Voilà. Et je me suis retrouvée dans une situation à me dire, oui, mais en fait, si je lâche ce boulot, je me retrouve sans boulot et donc sans sécurité et c'est la panique. Enfin bon, il y a tout un emballement là qui s'est créé à l'intérieur. Et donc là, le fait d'avoir pris cette décision d'arrêter mon contrat alors que je n'ai rien comme sécurité financière, enfin bien sûr, je peux m'inscrire au chômage pour l'instant, mais je suis confrontée à une peur, quelque chose, à un truc. J'ai l'impression que je vais mourir, littéralement. Alors j'associe ça à vraiment l'angoisse du manque. Je suis en train de voir vraiment les démons là que ça peut engendrer. Enfin, je me vois déjà dans la rue, sous les ponts. Enfin, c'est une catastrophe. Et en même temps, à côté de moi, bon, elle est bien bien enfouie pour l'instant, mais je sais pour l'avoir côtoyée ces derniers mois que cette énergie est aussi présente. Il y a une espèce de confiance, tu vois, à laquelle j'ai envie de croire, cette confiance dont certaines personnes parlent de, écoutez les gars, en fait, il y a la vie, c'est plus que ce qu'on croit, c'est plus que les histoires qu'on se raconte, c'est plus que toutes nos peurs, etc. Une fois qu'on lâche, il faut faire confiance dans ce qui va arriver. Alors, je voudrais, voilà, avoir ton avis là-dessus. T'entendre parce que pour moi, même si j'ai envie de croire à cette confiance et à ce lâcher prise et à me dire ok, les choses vont se mettre et fais confiance, enfin vas-y, j'ai quand même envie d'avoir les pieds sur terre et je me dis je fais quand même partie d'un monde matériel où l'argent régit le monde et si j'ai pas d'argent, bah je ne paye pas mon loyer, je ne paye pas mes factures. Enfin bon, voilà, c'est comment trouver l'équilibre en fait entre enfin, au milieu de ce chaos que peut générer cette peur du manque et cette confiance qu'on nous invite à avoir dans la vie, en fait.
Bien, belle grosse question, merci. Alors déjà, pour information, quand je questionne ma communauté, qui est quand même relativement grande, sur leur plus grosse problématique en lien avec l'argent, la peur de manquer sort très largement en numéro 1. Et la peur de manquer, je l'ai vécue autant chez mes clients multimillionnaires à l'époque que je le vois tout le temps et moi-même, j'avais d'excellents revenus, j'ai pourtant peur de manquer. Donc pour dire que cette peur de manquer, elle est, pour la grande majorité des personnes, elle n'a absolument rien de rationnel, dans le sens que juste là, à l'instant, juste là maintenant, au moment où tu me parles, est-ce qu'il te manque de l'argent juste là maintenant? pour
Non.
être avec moi? Non, la question c'est
Non.
non. Donc, au fond, tu l'as très bien décrit toi-même, que tout le film que tu te racontes au point de te dire je vais finir dans la rue, comme si tu n'avais absolument personne dans ton entourage, aucun ami, aucune famille, rien du tout, tu vois, que t'étais, voilà, que personne ne t'aimait et tu étais importante pour personne. Donc, un scénario qui compte tout ça, c'est ce scénario, c'est l'histoire que tu te racontes qui crée de la peur. Ce n'est pas la réalité. Il y a, enfin, ce qu'on appelle la réalité, il y a ce que nous vivons à chaque instant et il y a ce que nous racontons à partir de ce que nous vivons. Tu l'as très bien dit tout à l'heure quand tu as parlé de la fameuse demande. Comme je disais, à un moment donné, si je reçois un non, le problème n'est pas le non, c'est l'histoire que je me raconte à partir du non. Donc, tu revis la même chose et au fond, si tu veux, le grand danger, pas pour la peur de manquer, c'est d'écouter ces histoires. Parce que c'est ces histoires qui font que on rajoute des peurs à la peur et puis à un moment donné, on est complètement perdu. Et effectivement, c'est ce que tu as dit. En même temps que tu as des peurs là, si tu avais la capacité, et je sais que ce n'est pas facile que tu en aies dans des troubles émotionnels, mais si tu avais la capacité d'enlever ces couches de nuages pour aller à un endroit plus profond en toi, je peux te garantir qu'à cet endroit-là, tout est calme. Tu vas trouver un lac tout calme, hein, c'est ce qu'on peut voir quand on fait des fois de la méditation et autres, en tout cas, quand on touche un endroit où tout est tranquille, voilà, c'est comme si la vie était tranquille, c'est comme si les problèmes s'étaient évaporés. Et cet endroit, il existe toujours chez nous. Simplement, on y a plus ou moins facilement accès ou pas. Donc, pour l'instant, si on veut de la vague émotionnelle, effectivement, en général, ce n'est pas facile d'y avoir accès parce que les émotions prennent le dessus. Donc, la première chose déjà que tu pourras faire quand tu es dans ces moments-là, c'est d'apprendre à être l'observateur des histoires que tu te racontes. Parce qu'au moment où tu observes l'histoire que tu te racontes, tu as déjà pour te dire, ah oh, purée, mais quelle imagination dans ce cerveau, c'est quand même dingue.
On
Tout
est
ce
très
qui vient.
créatif, hein.
Voilà, exactement. Quelle créativité, mais quelle capacité de voir le pire. On devrait faire des films là-dessus. C'est dingue quand même. Voilà. Au moment où tu peux commencer à observer ça, tu es déjà plus prise dedans. Mais comme tu partages, au moment où tu es prise dedans, tu es déjà en train de t'auto-saboter toi-même et te faire une grande, grande peur. Et puis, j'aimerais juste finir avec ça. C'est qu'en lien avec l'histoire de gagner de l'argent, en français, l'expression la plus souvent utilisée, très largement, c'est gagner sa vie. Alors, c'est une expression dont j'ai horreur, que je conseille vraiment à tout le monde de bannir de son vocabulaire, parce que gagner sa vie, qui veut dire gagner de l'argent, en l'occurrence, rien d'autre. Hein. Quand on dit gagner sa vie, on parle juste de l'argent qu'on génère à partir d'une activité de salarié ou d'indépendant, c'est égal. Mais quand on parle de gagner sa vie, forcément que ça sous-entend que le contraire, la polarité existe, soit perdre sa vie, ça veut dire mourir.
Oui, c'est ça.
Donc, l'expression gagner sa vie, chaque fois qu'on l'y pense ou qu'on l'utilise, est en train de sous-entendre en permanence que je pourrais mourir parce que je ne gagne pas d'argent. Je peux te garantir que si tu n'as plus de revenus maintenant, que tu peux vivre encore très, 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 très longtemps, aussi longtemps qu'on te fournit ce qui est indispensable pour vivre, de l'air, ça a priori on en a encore tous, de quoi te loger, te protéger du froid, du chaud, d'un prédateur, et de quoi manger, éventuellement des soins si tu en as besoin. Et même sans argent, si tu as ça, tu vas vivre et tu peux vivre très heureuse. Donc, évidemment, d'autres auront probablement besoin d'argent pour cela, mais pour te dire que c'est important de voir que sans argent, on ne meurt pas, ça n'existe pas. Ça rend la vie peut-être moins facile et moins confortable sous certains aspects, mais l'argent n'est pas une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort, c'est ce que je viens de décrire tout à l'heure, et qu'il y a des sociétés potentiellement ou des tribus qui, depuis très longtemps, n'ont pas d'argent et sont toujours en vie hein, depuis des centaines d'années, voire ou peut-être plus, sans argent aussi, parce qu'ils ont toujours ce qui est nécessaire pour survivre. Voilà, donc déjà, peut-être cette première partie, je n'ai pas parlé de confiance en la vie, mais je touche un mot là-dessus, peut-être, ou pas?
Oui, ça me plairait de t'entendre là-dessus.
D'accord, OK. Alors, je dirais que une des grosses causes de stress et d'anxiété, et peut-être ça va te parler dans ce que tu vis, c'est les personnes qui pensent qu'elles doivent se débrouiller seules, qu'elles ne peuvent compter que sur elles. Aussi longtemps que je pense que je peux compter que sur moi pour générer mon propre argent, etc., c'est forcément anxiogène, puisque s'il m'arrive le moindre truc, je suis perdu, j'ai l'impression que ma seule source ou ressource disponible est épuisée. Et moi, je ne crois pas à ça. Je crois que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus vaste que notre petit être. Souvent, c'est l'ego d'ailleurs, hein, qui est là-dedans. Ce n'est pas notre être profond, c'est de l'ego et ce n'est évidemment pas grave du tout. Mais simplement que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Et c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que j'appelle la vie, qui est composé d'êtres humains, qui est composé de plus de choses que l'être humain. Et moi, ce sont des croyances, je suis bien, bien clair, je suis convaincu qu'il y a une intelligence largement au-dessus et supérieure que la mienne, qui fait d'ailleurs juste que ces planètes fonctionnent entre elles d'une manière absolument magique, c'est un truc comme de fou quand on y réfléchit, et que cette vie-là, elle m'amène les bonnes rencontres, elle m'amène effectivement les bonnes choses, y compris un licenciement, elle m'amène les choses aussi inconfortables quand je fais fausse route, c'est comme si elle m'aidait à m'aiguiller à des moments où je ne suis peut-être pas à l'écoute de ce qui est là au plus profond de moi que je ne veux pas écouter parce que je laisse trop de place à mes peurs, à mes pensées, à mon mental peut-être. Donc, cette confiance à la vie fait que il y a une chose, une partie en moi dans laquelle je suis très clair, je n'ai pas toujours accès, mais en tout cas que j'ai accès quand même bien souvent, qui sait que quoi qu'il m'arrive, les ressources, soit je les aurai, soit elles viendront à moi d'une manière ou d'une autre, soit d'une manière parce que je vais faire des demandes pour revenir à ça, ou que ça viendra à moi parce que des gens vont me faire des propositions sans que j'ai rien demandé, il y aura toujours ce qui est nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'être beaucoup plus serein et tranquille que de penser que je dois me débrouiller seul.
Mais ça me parle vraiment ce que tu dis parce que et je crois que tu en parles aussi dans ton livre. À un moment donné, tu fais référence à
À Charles Eisenstein, entre autres, je ne sais pas si ça.
oui, qui a écrit ce bouquin que j'ai lu aussi, Notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible, et qui parle en fait d'un monde dans lequel on vit actuellement, où en tout cas notre système a été créé sur base de la peur, du manque, etc. Et ça génère de la séparation en nous et avec les autres. Et moi, justement, je te disais en introduction que je suis fort aussi touchée par enfin, par l'écologie et par ce qu'on fait à la Terre, en fait, que je considère comme un être vivant, tu vois. Et ça crée aussi notre monde, notre système, crée de la séparation entre nous et la nature. Il y a les humains et il y a la nature derrière. Et alors, ce que Charles Eisenstein dit dans son bouquin, c'est que lui, il est convaincu, et je sais aussi que, enfin, je pense qu'on est plusieurs, en fait, à être convaincus de ça. On le sent, on sait peut-être pas l'expliquer, mais on le sent à l'intérieur, qu'en fait, on est amené tout doucement à transformer notre rapport au monde et à expérimenter d'autres façons de faire, d'autres façons d'être, et des façons de faire et d'être qui nous amènent à une espèce de réunion, de communion, et justement à progressivement mettre en lumière nos peurs pour essayer de les transcender et progressivement, de plus en plus, s'installer dans une espèce de confiance. Enfin, moi, je sens qu'on est là-dedans, mais en même temps, c'est tellement inconfortable parce qu'il y a vraiment une rencontre des deux mondes en permanence qui se confrontent. L'ancien monde qui est lourd à changer, difficile, etc. Et puis, toutes ces petites initiatives, tous ces gens, en fait, qui essayent de, voilà, d'être à l'écoute, justement, de ce qui est vivant et de cette confiance. Voilà. Enfin, je sais pas si tu rencontres beaucoup de gens, en fait, qui partagent cette croyance.
Alors oui, absolument, je partage beaucoup. Moi, j'accompagne beaucoup ce que j'appelle les entrepreneurs de cœur, ceux qui ont envie de contribuer à quelque chose de positif, et beaucoup ceux, eux, qui viennent à moi. Donc, si tu veux, par rapport à des amis qui ont fait des études avec moi, des fois, on discute ensemble, eux ne voient que l'information sous l'angle des médias. Moi, je vois beaucoup de choses sous l'angle du terrain. Et je leur dis, ben, on ne voit juste pas le même monde, en quelque sorte, parce que je sais. Alors, c'est sûr que on peut parler de l'ancien monde ou d'ancien nouveau paradigme. Enfin, c'est important de juste d'utiliser ces mots en conscience, en étant conscient que quand on dit ça, on est en train de recréer de la séparation. Mais au fond, si on est conscient qu'on l'utilise juste pour définir de quoi on parle, c'est OK, évidemment. Mais autrement, le risque, c'est de retomber dans les méchants et les mauvais, et nous les gentils, et on recrée exactement ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir que, quels que soient les endroits, et ce que tout le monde est bourré de peur et que les actions sont beaucoup basées sur la peur, y compris pour des milliardaires et autres et des politiciens, ils sont dans un stress et une peur à peu près permanente. Je suis personnellement convaincu, même si évidemment je ne les connais pas personnellement, en tout cas. Mais simplement, Charles Einstein avait justement ces mots que je transcris dans mon livre en disant. Nous avons recréé des communautés vivantes. C'est quoi? Des communautés où on se connaît et où on s'apprécie. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on voit que, effectivement, ce monde de séparation qui est venu beaucoup avec la publicité, enfin, qui était quelque part très égotique, tu vois, faites-vous plaisir. Mais faites-vous plaisir juste toi. C'est à toi que je parle et oublie les autres. C'est toi qui dois faire des choix, tu vois. Ce côté déconnexion des autres, ce côté un peu silo comme ça, les uns côté des autres. Et quand il parle de communauté vivante, il dit, au fond, où on se connaît, où on s'apprécie, pourquoi? Parce que dans une communauté vivante, on ne laisse tomber personne. C'est tellement vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une communauté d'amis, j'ai malheureusement deux amis qui sont décédés dans des accidents, ben c'est clair qu'on est tous là, on est tous présents, on est tous là à donner un coup de main. Ça peut s'appeler famille, ça peut s'appeler peut-être paroisse religieuse, un endroit, ou je sais pas quoi, quel que soit l'endroit, c'est égal. Mais dans ces communautés-là, on voit qu'il y a des catastrophes à des endroits dans le monde, on voit à quel point les gens se resserrent aussi dans ces moments-là. Donc cette capacité, elle existe, mais simplement, elle devrait pouvoir exister au-delà des catastrophes, tu vois, de réapprendre à vivre ensemble, de réapprendre à s'apprécier. J'entendais Louis Fouché, tu vois qui c'est, j'imagine. Non, Louis Fouché était très actif, médecin anesthésiste pendant la crise Covid. Il a créé Réinfo-Covid, il a vraiment amené un autre regard et vraiment, il a écrit des livres magnifiques d'ailleurs, vraiment c'est un philosophe, c'est pour moi un grand philosophe, un grand sage, et qui explique justement comment refaire des choses un peu différemment aujourd'hui. Il disait, mais il y a tellement de boulangers qui ont des problèmes en ce moment dans vos villages, dans vos trucs, mais réunissez-vous, quoi, regardez comment vous pouvez acheter un four solaire, enfin, faites des choses ensemble, quoi. Ne les laissez pas tomber, ces gens-là, tu vois. Et ça, c'est des choses très concrètes où on peut tout à coup ensemble définir que il y a des choses qui seraient importantes de garder dans notre communauté, et puis plutôt que dire, ben, ma foi, tant pis pour lui, si l'électricité augmente beaucoup, il ne peut pas s'en sortir. Et si ensemble, on regardait ce qu'on pouvait faire pour que ça puisse se servir, s'il est un estime important, qu'il puisse continuer. Et là, d'ailleurs, on verra, on y reviendra, que l'argent peut être très précieux pour ça aussi.
Mais justement, on va par rapport à l'argent et par rapport à ce monde, je reprends mes notes, attends, parce que j'avais écrit une question par rapport à ça. Alors, attends. En quoi, oui, en quoi, enfin, je ne sais pas, hein, peut-être que tu vas me dire que ça n'a aucun rapport, mais je pense quand même que, enfin, d'après ton livre, il y en a un. En quoi le travail individuel qu'on peut faire, justement, en prenant comme porte d'entrée notre relation à l'argent, pourrait amener, ou en tout cas, pourrait faire partie de ce changement de paradigme pour passer d'une culture du manque ou d'une culture de, enfin, cette culture de, oui, de la peur de manquer, de la séparation, à une culture de l'abondance, entre guillemets, même si on reviendra sur ce terme, mais cette culture de la réunion. En quoi est-ce qu'un travail individuel sur notre relation à l'argent peut amener un changement de conscience ou en tout cas un changement collectif?
Alors, je vais te répondre, mais j'ai envie de te poser une question juste avant de vous répondre. Selon toi, si les êtres humains ont moins de peur, est-ce qu'ils vont fonctionner autrement?
Oui, je pense.
Oui, tu penses. OK. Moi, j'en suis convaincu personnellement. En tout cas, c'est en tout cas à travers mon expérience, je peux le voir. Alors, je vais donner un exemple très concret qui est mon expérience. Aussi longtemps que j'avais peur de manquer, j'avais tendance à vouloir acheter le meilleur marché possible. C'est logique. Puisque la peur, c'est que l'argent fout le camp. Et le meilleur marché possible, ça veut dire quoi? Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Assez rarement. Est-ce que c'est produit à côté de chez nous? Très rarement. Donc, autrement dit, j'étais comme si j'avais la caméra tournée sur moi, c'est-à-dire que je suis juste en train de m'occuper de ma peur en allant acheter le meilleur marché, même si c'est produit à l'autre bout du monde, même si c'est produit dans des conditions dégueulasses en termes d'humain et voire d'utilisation des ressources, parce que ma peur prenait le dessus et fait que je m'occupais que de ma peur, je ne m'occupais pas des conséquences à l'extérieur. Au moment où mes peurs ont diminué fortement, aujourd'hui, je parle de l'argent comme un bulletin de vote en disant la manière dont j'utilise l'argent est déjà une manière qui permet de construire, enfin, ou en tout cas, oui, qui est une manière de construire la société de demain. C'est-à-dire que si je n'aime pas les grandes multinationales et que je rachète leurs produits, avec mon argent, je suis en train de dire, continuez de faire de la sorte, je vous encourage puisque je vous donne mon argent comme vos produits. Donc, je suis en train de les encourager à continuer comme ça. De la même manière que mon même argent, si je décide d'acheter local parce que c'est important qu'on ait des petits, qu'on ait des PME ou des petites entreprises autour de chez nous, je suis en train de les encourager aussi à travers mon investissement ou le fait d'acheter des légumes ou je ne sais pas quoi. Si je vais dans les petits magasins, c'est la même chose. Si j'achète mes livres dans un libraire plutôt que sur une grosse plateforme, c'est la même chose. Si j'achète du bio plutôt qu'autre chose. Donc, à un moment donné, si tu veux, le fait d'avoir enlevé une très grosse partie de mes peurs m'a fait gagner en conscience. Je dis, j'ai envie que mon argent circule d'une manière qui ait du sens. J'ai envie que mon argent co-construise cette société qui me semble plus souhaitable selon mon regard, qui ne regarde que moi, évidemment. Et je peux l'utiliser. Donc, tu vois, à un moment donné, je n'ai plus la caméra tournée sur moi, comme c'était le cas avec mes peurs. Je peux prendre de la hauteur en disant, je veux que ce soit et bon pour moi, et bon pour ceux à qui j'achète ou j'investis, et bon pour la société. Et c'est là où je gagne en conscience du collectif. Voilà, je ne sais pas si c'est ma réponse est claire.
Oui, tout à fait, très clair. Et en même temps, j'ai envie de mentionner ici aussi que je partage évidemment ce que tu racontes, et je me dis aussi que pour investir dans des produits de qualité, malheureusement aujourd'hui, il faut avoir un minimum d'argent quand même, parce que c'est quand même une réalité, les produits de qualité artisanale, etc., sont un peu plus chers, entre guillemets, que le meilleur marché, quoi. Donc c'est toujours cet équilibre à trouver entre ce que j'ai et les valeurs en lesquelles je crois et comment je peux associer les deux, quoi.
Oui, bien sûr, tu as raison. Alors, ils sont plus chers, j'ai envie de dire, à titre individuel, dans le sens que l'argent qui sort de mon porte-monnaie, mais qu'une fois, si on prend de la hauteur et qu'on regarde un coût écologique par rapport à des produits meilleur marché qu'on fait transporter par bateau, par avion, etc., etc., pour la société, ils ne sont pas plus chers. Ils sont juste
Oui,
plus
bien
chers
sûr.
pour moi. Mais il y a évidemment une. Enfin, il y a une réalité personnelle, financière de chaque instant qui peut être différente à chaque instant. Et c'est aussi pour ça, quand j'encourage les personnes à casser leur plafond de verre, à s'autoriser à gagner plus d'argent, ce n'est pas juste dans le but d'en accumuler un maximum, c'est dans le but de dire, vous allez pouvoir le faire circuler encore mieux, faire des choix plus conscients. Et puis, si vous avez de la chance, comme moi aujourd'hui, d'avoir plus de gagner plus d'argent que ce qui m'est nécessaire pour vivre. Je participe à une série de financements participatifs, un peu du crowdfunding, parce qu'il y a des plateformes, il y a plein de gens qui font de la permaculture, qui ouvrent des petits trucs, enfin, tous des projets que je trouve super. Et puis, je suis content de pouvoir mettre un peu d'argent par-ci, par-là, par-là, parce que j'ai envie de les encourager. Je me dis, chaque fois, si ce projet existait, ça serait déjà un plus dans le monde, tu vois. Et je peux le faire juste parce que j'ai de l'argent. Alors, je n'ai pas des millions pour ça, hein, entendons-nous, mais malgré tout, quel que soit nos montants à nous, on peut y aller à coup de 1, 3, 5, 10, 20 euros, c'est égal. On peut faire changer des choses ou accélérer le changement avec cet argent-là. Donc, parce que souvent, les gens disent, moi, c'est juste ce qu'il faut pour moi, c'est bon, ça me suffit. Je dis, c'est OK. Tu as évidemment le droit. Et si tu avais plus que ce qu'il fallait, est-ce que tu pourrais faire quelque chose qui serait positif également et qui encouragerait le changement de société? Et là, de nouveau, je reprends de la hauteur et je vois que mon argent peut être un accélérateur de ce changement-là et pas juste, comme certains le pensent et le disent, et peut-être certains le pensent en nous écoutant, que j'entends souvent, l'argent est la cause des problèmes dans le monde. L'argent est quelque chose d'inerte, je veux dire, c'est le comportement des humains avec l'argent qui est problématique, mais ce n'est pas l'argent du tout en tant que tel. Et je ne parle pas, l'argent n'est pas le système économique, c'est important de différencier les deux choses.
Ça, alors c'est génial que tu abordes ça parce qu'en fait, je me suis vue ici ces derniers mois et au moment où j'ai voulu justement avoir cet épisode avec toi, j'ai vraiment imaginé péter tous mes plafonds de verre. Je me suis autorisée à rêver, à imaginer, tu vois.
C'est
Et en
bien.
fait, ouais. Et en fait, j'ai commencé à me dire, oui, en fait, bon, j'aimerais de l'argent. J'aimerais de l'argent, déjà, ne fût-ce que pour vivre et assouvir mes besoins, etc. Et puis, très vite, je me suis surprise à me rendre compte que je voulais de l'argent, mais aussi pour investir, pour créer de l'emploi, pour voilà, devenir mécène, si je pouvais, enfin bref. Et j'ai commencé à imaginer ce que j'allais pouvoir faire de cette abondance financière. Et c'est comique parce que parallèlement à ça, j'ai rencontré lors d'un atelier sur ma relation à l'argent avec un de tes, enfin, avec une personne qui a aussi été formée par Peter Koenig. Enfin, il y avait une des participantes là, je lui partageais ça et elle me dit, ah tiens, c'est comique parce que moi, je m'imagine même pas en fait pouvoir utiliser mon argent au service de la création d'emplois, par exemple, ou de projets bien plus grands. Je me projette juste dans, il m'en faut pour payer mes factures, tu vois. Et donc, ce que ça a généré chez moi comme questionnement, c'est Alors là, de nouveau, je reprends mes notes. C'est en gros, gagner de l'argent jusqu'où et pourquoi faire? Parce que je voyais qu'il y avait une espèce d'appétit chez moi et aussi, je suis une idéaliste, je voulais de l'argent pour créer de l'emploi, pour participer à cette création d'un monde plus joli. Et je me suis dit, gagner de l'argent, ok, mais jusqu'où? Quand est-ce qu'on s'arrête, en fait? Comment définir ce qui est suffisant pour moi? Et OK aussi et en lien avec les limites de la planète. Parce que là, j'ai envie qu'on ramène justement cette abondance financière. Si tout le monde prétendait à cette abondance financière, ou en tout cas, j'ai envie et plus, et en ayant plus, je peux contribuer à l'émergence de cette société à laquelle je rêve. Mais jusqu'où on va? Et quand est-ce qu'on s'arrête justement par rapport à cette réalité de notre monde qui est les ressources en fait de notre planète sont limitées. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Voilà, comment tu répondrais à ça?
Je regarde par quoi je vais commencer. Il y a déjà juste une chose. Il y a souvent des personnes qui disent, si je gagne plus d'argent, ça veut dire que les autres en auront moins. Alors, ça, c'est déjà peut-être une première erreur, parce que si on regarde le montant d'argent en circulation depuis des années, alors je garde grande monnaie, dollar, peut être l'euro, mais le dollar en l'occurrence, c'est juste exponentiel. Ça veut dire qu'autrement dit, l'augmentation de l'argent en circulation, c'est juste un truc de fou. Je ne dis pas que c'est sain, je ne dis pas que c'est juste. Mais qu'est-ce qui se passe d'une manière systémique pour vraiment comprendre ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui ont tendance, par des croyances limitantes, par penser qu'elles ne méritent pas, qu'elles n'ont pas beaucoup de valeur, à se limiter à un petit morceau, hein. C'est comme si je prends un petit morceau de tarte. Mais simplement, et qui pensent effectivement que comme je prends un petit morceau de tarte, il en reste pour les autres. Mais simplement, ils ne voient pas qu'il y a encore 10 autres tartes, 100 autres tartes, 1000 autres tartes ou 1 million d'autres tartes à côté, si tu veux. Et ils continuent de prendre le petit morceau. Et puis, il y en a d'autres qui ont tout à fait compris le système, eux qui savent bien qu'il y a toujours une plus grosse tranche à prendre et qui n'ont aucun problème de se gêner pour prendre cette plus grosse tranche. Et même qu'ils en ont déjà beaucoup, qui sont déjà bien gros et dodus, ils prennent encore des grosses tranches. Mais simplement, ils peuvent le faire. Parce que nous ne prenons pas la part dont nous ne pouvons tous prendre sans problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se contente tous de cette petite tranche-là, ben d'autres n'ont aucun problème pour en prendre plus. Alors, il ne s'agit pas d'en prendre plus pour en prendre plus. Pour moi, c'est très clair. C'est-à-dire que c'est toujours quand l'argent est un but en soi, alors entendons-nous, j'entends bien qu'on est tous on veut tous au moins survivre, on a au moins envie d'avoir assez. Comme on dit, tout ça, mais le assez, ça devient, tu sais, le assez, il peut vite devenir beaucoup, 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 et on sort du assez dans nos perceptions si on ne met pas un peu de conscience dessus. Donc, moi, je suis quelqu'un qui encourage beaucoup ou qui enseigne beaucoup de dire, moi, je vois l'argent comme une conséquence et pas comme un but en soi. C'est-à-dire que tu sais, oui, j'aimerais beaucoup d'argent pour pouvoir mener ce projet à bien ou pour pouvoir créer de l'emploi, et au fond, l'erreur que tu fais quand tu dis ça, si j'ose me permettre, c'est de
Bien
dire,
sûr.
tu crois que pour créer beaucoup d'emplois, ça passe par de l'argent que tu devrais avoir toi. Et je t'encourageais une fois à aller voir Evelyne, mon amie en Belgique, à Verviers, qui, elle, effectivement, a créé un magnifique lieu qu'elle a acheté avec pas d'argent du tout. Et elle a créé un endroit, effectivement, il y a plein de thérapeutes, de coachs qui se retrouvent, qui créent quelque chose ensemble, enfin, voilà, plutôt que chacun dans son coin, à partir de pas d'argent, mais une idée, un rêve, et l'argent est arrivé à elle. Tu vois déjà ce qui se passe, la différence. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir l'argent soi, c'est d'avoir une idée, d'avoir l'énergie à mobiliser et avec l'enthousiasme, évidemment, pour mener à bien cette idée-là. Et l'argent peut potentiellement arriver de plein de côtés, comme il se passe dans les financements participatifs. Donc, c'est important aussi, encore une fois, de reprendre la hauteur, de dire, ce n'est pas forcément moi de l'argent dont j'ai besoin, moi, l'argent peut venir de toutes sortes de manières. Et donc, c'est pour ça que moi, je parle de l'argent comme une conséquence. Et vraiment, que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs de cœur, comme je disais, et je dis toujours, mais focalisez-vous sur comment pouvez-vous amener la plus belle contribution possible, la meilleure contribution possible à vos clients potentiels. Que vous soyez thérapeute, que vous soyez artiste, que vous soyez, quel que soit le domaine où vous êtes, ou maraîcher, je ne sais pas quoi, essayez toujours d'être focalisé sur la meilleure contribution possible. Alors attention, sans se sacrifier, hein, c'est important, on n'est pas là pour se sacrifier dans le sens de se faire mal, en se respectant individuellement, évidemment. Et si vous amenez quelque chose qui a beaucoup de valeur et qui rencontre que beaucoup de personnes ont la nécessité de venir à vous, pour X ou Y raison, ben, la conséquence, c'est que vous pouvez vous mettre à gagner de l'argent, voire beaucoup plus d'argent. Moi, j'ai écrit des livres. Alors, des livres, potentiellement, ben, c'est clair, s'il venait à toucher des millions de personnes, la conséquence, c'est c'est que visiblement, il toucherait beaucoup de personnes. La conséquence, c'est que je gagnerais beaucoup plus d'argent, tu vois. Et c'est vraiment ça, parce que dès le moment où on a le focus de l'argent pour de l'argent, et c'est ce qu'on voit malheureusement, à mon avis, dans beaucoup de multinationales, de la manière dont c'est géré, là, on a, je veux dire, presque inévitablement des problèmes d'éthique. À un moment donné, je vois bien comment l'argent est gagné et tout, c'est plus tellement important. Ce qui compte, c'est d'avoir plus d'argent. Et là, on a des questions on est des questions de niveau de conscience pour moi.
Ouais, c'est ça. Je vais essayer d'être claire en abordant ça, mais tu en parles justement. Tu disais que l'argent, il monte, il monte, il monte de manière exponentielle. Il y a une quantité d'argent en circulation. Et en fait, moi, ça m'interpelle parce que je me dis qu'on est en fait dans une société hors sol. Hein. On cultive des tomates hors sol, on importe, et à n'importe quelle saison, on mange des tomates toute l'année. Alors, je ne suis pas dans un jugement là, je suis juste dans un constat. Et du coup, le résultat de cette culture de tomates toute l'année, c'est qu'il y en a, il y a des tomates toute l'année à 1 euro. Et donc, les tomates qui ont été cultivées dans des serres, qui ont demandé énormément d'énergie, etc., et qui sont arrivées même par avion, sont vraiment. Ça coûte 1 euro du kilo, par exemple. Et les tomates qui ont été élevées dans la terre, au rythme de la nature, etc., par exemple, ça va être un prix de 5 euros du kilo, ça va nous paraître trop cher. Et je trouve parfois qu'on perd le lien en fait avec la valeur des choses. Et ici, j'ai envie de, peut-être d'introduire cette notion d'abondance. J'aimerais t'entendre en fait sur ce que tu penses de l'abondance, parce que parfois ce que j'entends, ou peut-être l'image erronée hein, que je me fais des discours que j'entends par rapport à l'abondance, c'est que l'abondance à tous les niveaux pour moi, elle ne me paraît pas forcément être en relation, ou en tout cas pas toujours, avec ce que permet le vivant. Donc moi, je considère que la nature, elle a des cycles, elle suit un rythme qui lui est propre et les ressources ne sont pas illimitées ou en tout cas ne se régénèrent pas au même rythme que celui avec lequel on les utilise. Et je trouve qu'avec l'argent, on perd aussi ce lien dans le sens où l'argent aujourd'hui, il est surtout virtuel. Donc on a dissocié d'une certaine façon la quantité argent qui circule de la limite naturelle qui était la ressource en or à l'époque. Et on accumule des zéros sur le compte, mais si on devait posséder tout cet argent en ressources matérielles or aujourd'hui, ce serait même pas possible en fait. Et du coup, enfin, qu'est-ce que ça t'évoque? Comment parler d'abondance dans ce cas-ci? À quoi fait référence l'abondance? Et voilà, est-ce que c'est possible de travailler sa relation à l'argent en amenant justement cette conscience à cette connexion à plus vaste? À quelque chose de plus grand que nous ou à cette connexion à la nature. Je sais pas si je suis claire en fait dans ce que je dis.
Oui, tu es tout à fait clair. Alors après, par contre, tu ouvres sur beaucoup de domaines. Alors, en même temps, mais peut-être juste, j'aimerais juste faire une parenthèse qui répond en partie à ta question. Une partie de ta question, c'est dire, bon, moi, je suis absolument pas à l'aise avec le système économique tel qu'il existe. Je trouve qu'il n'a aucun sens, qu'il n'amène aucun mieux-être dans la population. Donc, il est effectivement hors sol et il est déconnecté d'une réalité par des gens qui sont déconnectés d'une réalité aussi. Donc, voilà, ça c'est la parenthèse. Donc, dire oui, la création monétaire telle qu'elle est faite, effectivement, comme tu dis, sans qu'il y ait de garantie de valeur à travers l'étalon or, etc. Donc, tout ça, c'était le début de la fin, mais voilà, voulu par certains, mais là, c'est une autre histoire. Donc, ça c'est une chose. Tu n'as pas parlé de croissance et décroissance, mais j'aimerais juste toucher un mot là-dessus. C'est Edgar Morin qui a 100 ans maintenant, qui est un de mes modèles dans le sens j'aimerais être aussi brillant et actif que lui, donc on a écrit des livres ces dernières années, et qui disait, mais déjà 10 ans en arrière, je pense, qui disait, mais au fond, aujourd'hui, on a besoin et de croissance et de décroissance. C'est important parce qu'on entend trop souvent juste de la décroissance, ce n'est pas vrai. On a besoin de croissance, de solidarité. On a besoin de croissance dans le sens de plus d'amour de soi. On a besoin de croissance dans le sens d'augmenter le respect du vivant. Donc, il y a toute une série de choses dans lesquelles on a besoin de croître, dans le sens qu'il y en ait plus que ce qu'il y en est maintenant. Et effectivement, on a besoin de décroissance à d'autres endroits qui sont entre autres, je pense que pour beaucoup de personnes, on pourrait séparer de beaucoup d'objets matériels, parce que malheureusement, je vois que cette société de consommation est devenue une société de compensation, que souvent c'est une compensation au mal-être qui fait qu'on va de certains vont dans les grandes surfaces le samedi, dimanche, je ne sais pas quoi, pour un peu passer leur ennui ou je ne sais quoi. Donc là, il y a quelque chose aussi qui n'est pas juste à cet endroit-là. Et donc, effectivement, que je suis alors absolument convaincu que quand Pierre Rabhi parlait de sobriété heureuse, que c'est juste une capacité à revenir à soi en disant qu'est-ce qui fait une réelle différence dans ma vie? Et qu'est-ce qui fait une réelle différence dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je peux me considérer comme plutôt heureux, ou en tout cas dans mon cas heureux? Alors, c'est clairement pas le fait d'avoir un ordinateur dernier cri, mais par contre, la qualité de la relation que j'ai déjà de moi à moi, ça commence par là, de moi aux autres, de moi à la vie, la capacité que j'ai à m'émerveiller devant la beauté de la vie, j'ai juste des montagnes merveilleuses devant moi, des arbres, enfin, etc., et que je m'émerveille depuis 35 ans, que j'ai la même vue sans arrêt, même toujours plus, j'ai envie de dire, tout ça fait une réelle différence dans ma vie. Évidemment que je suis content d'avoir un bon lit pour m'endormir. Je suis content de vivre dans un espace où je me sens bien. Mais je sais que mon espace, qui est plutôt assez grand parce que nos enfants sont partis de la maison, il pourrait être plus petit, qui pourrait être très bien. Et puis je suis très content parce qu'on fait plein d'activités aussi professionnelles chez nous. Donc on fait vivre cette maison. Donc j'essaie de trouver des manières aussi pour être en adéquation avec mes valeurs. Donc si tu veux, c'est vraiment important de pouvoir se souvenir de ce qui fait vraiment une réelle différence et ce qui est de l'ordre du. Ça peut être agréable, mais si je ne l'avais pas, où est le problème? Tu vois, il y a 20, moins 20 ans qu'on n'a plus de télévision, je pense, ou 25 ans. Et alors, où est le problème, quoi? Je dis vraiment, mais pour certains, ça serait compliqué de se passer une télévision. Et évidemment, je ne juge pas les personnes, parce qu'il y a peut-être d'autres choses pour qui ça serait compliqué pour moi aussi. Donc, ça, ce sont des vraies questions de fond qui fait que, qu'est-ce qui fait qu'une vie est heureuse? Et je peux te dire que je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui va dire une vie est heureuse parce que j'ai ce modèle-là de voiture. On peut être content sur le moment, avoir une sorte de kiff quand j'achète ma bagnole, mais une fois que je suis dedans depuis un moment, alors je peux avoir de la gratitude pour avoir ce véhicule-là qui est quand même qui rend ma vie plus pratique, plus facile ou je ne sais quoi. Mais de là à dire c'est parce que j'ai ce modèle-là, ça, j'y crois pas vraiment, pour tout dire. J'y crois pas vraiment que ce soit une réponse qui vienne au plus profond de moi, que c'est une réponse qui vient peut-être avec la tête. Donc, je pense qu'on revient sur une question de conscience, parce qu'au fond, tout ce que j'ai toujours fait depuis un moment dans mes activités, quelles qu'elles soient, c'était toujours comment je peux essayer de soutenir les êtres humains à avoir plus de conscience dans leur propre fonctionnement. Ça commence toujours de nous à nous, mais dans ma relation aux autres, dans ma relation vivante, etc., etc. Et plus on augmente sa conscience, plus je pense qu'on peut faire des choix qui semblent être un peu plus ajustés à moi et à plus grand que moi, encore une fois. Parce que là, on en revient à ça, c'est qu'il y a un moment donné, on ne peut plus faire juste des choix où on est juste connecté à soi sans être déconnecté du. Enfin, où on doit comme étouffer la culpabilité qu'on peut ressentir, son mal-être, pour être capable de faire ces choix-là. Ce qui veut dire qu'on n'est pas respectueux de soi. Voilà, c'est moi qui me suis un peu emballé. Je ne sais pas si tu t'y retrouves encore dans tout ça. Et je ne sais plus si j'ai répondu à tout ce que tu as dit non plus.
Oui, mais globalement, mais
Oui,
c'est vrai que c'est
l'abondance, oui, l'abondance encore.
oui.
Oui. Alors pour moi, si tu veux. Personnellement, je ne vis pas comme de l'abondance de pouvoir acheter des tomates toute l'année. Moi, alors, ça ne me fait absolument pas kiffer. Et je pense vraiment qu'on revient sur quelque chose de l'ordre de la conscience et de dire, aujourd'hui, quand on se renseigne un peu, on peut voir qu'il y a beaucoup de fruits et de légumes qui n'ont malheureusement presque plus de qualité nutritive. Donc, on peut se raconter une histoire qu'on mange des légumes et que ça fait du bien, mais la réalité, c'est que ça ne fait pas du bien. Peut-être même, ça fait même du mal d'ailleurs. Déjà à moi et potentiellement à la société. Donc, en tout cas, moi, je n'appelle pas ça de l'abondance, parce que, encore une fois, je pense effectivement que si les saisons existent, ça a du sens. Et puis que manger une orange là où elle est, où on l'a cueillie, ça a toujours un autre goût que quand on a dû traverser des mers pour la faire venir jusque chez nous aussi. Donc, pour moi, l'abondance. C'est un sujet très vaste, mais l'abondance, je la vois déjà avant tout au niveau de l'amour que je vis, qui circule dans ma vie, dans ma capacité, dans la gratitude pour tout ce que je vis également. C'est pour moi, c'est ça qui, comment dire ça, qui contribue à l'abondance, c'est la qualité des relations que j'ai autant dans ma famille que mon épouse, mes amis, mes clients, etc., etc., dans la manière de pouvoir contribuer à des choses que j'aime faire. Donc, tout ça, c'est déjà beaucoup pour moi de l'abondance. Et l'argent fait partie de l'abondance, mais c'est qu'un aspect parmi beaucoup d'autres choses. Et abondance, c'est vrai que souvent, dans le mot, on voit abondance égale des stocks de plein de choses, tu vois, des surplus de plein de choses. Et c'est vrai que je crois, mais ce serait à vérifier, que la définition première, elle parlait plutôt de ça. C'est vrai que j'ai tendance à avoir changé un peu cette définition en disant, pour moi, l'abondance, c'est plus un état d'esprit qu'une réalité matérielle. Tu vois, je peux vraiment vivre dans un état d'esprit d'abondance, dans l'impression que j'ai tout ce qu'il faut, que tout est parfait, et sans que j'ai forcément des stocks de plein de choses, que ce soit de la nourriture, soit d'argent ou d'autres choses. C'est avant tout pour moi un état d'esprit. Parce que toi, je vois plein de gens qui ont tous les biens matériels et qui sont dans un esprit de manque complet, total, qui pensent toujours qu'il leur manque encore d'autres choses, qui se comparent à ceux qui ont plus qu'eux et qui se rendent malheureux avec ça. Donc moi, je vois plus l'abondance comme un état d'esprit avant d'être une réalité matérielle.
Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Et ça me réconcilie du coup avec le concept, en fait, le mot, quoi.
Oui, bien après, tout le monde va y mettre ces choses-là, tu vois, et puis je relisais des choses en lien avec le livre de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est inconnu, le secret peut-être, ça te dit quelque chose.
Ouais.
Voilà. Et que je trouve très intéressant, mais vraiment de différencier le fond de la forme. Parce que sur le fond, je crois réellement que nos vibrations, que si nous vibrons haut, nous attirons des choses différentes que si nous vibrons de la peur, je crois. Enfin, moi, j'ai plein, plein de confirmations de ça et à travers mes clients également. Et je crois que la physique quantique aujourd'hui l'explique très clairement, ce genre de choses-là. Donc, le fond, complètement d'accord. Après, la forme de juste vouloir utiliser ça pour avoir une Ferrari rouge, un machin ou ça me paraît justement un peu bétifiant, j'ai envie de dire. Or, je ne suis pas en train de dire que les gens qui ont des Ferrari sont bêtes, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais que ça peut être utilisé d'une manière qui soit peut-être un peu plus au service
De la vie.
voilà, de la vie et puis de nos projets de vie, de nos projets de cœur, de ce qui nous rend réellement heureux de manière durable.
Bien, merci Christian. Bon, je vais pas te prendre trop de temps. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Mais est-ce que je peux encore te poser
Vas-y, vas-y.
une question? Parce
Oui.
que voilà, j'aurais peut-être dû commencer par celle-là.
Je me méfie de tes questions. J'ai vu que c'était très long. Hein.
Désolée, mais c'était
Vas-y, vas-y seulement. Vas-y comme ça vient. C'est parfait. Tout est parfait.
mon cerveau, tu sais, parfois j'ai du mal à canaliser, à comment dire, à raccourcir ce qui se passe dans ma tête. Mais non, une question toute simple en fait. Pour toi, c'est quoi l'argent?
Alors, si tu veux, quand on me pose cette question-là, moi, je reviens toujours à expliquer ça par l'utilité. Parce qu'au fond, tu vois, si je te dis, c'est quoi une machine à laver le linge, tu peux dire, bah, c'est quelque chose qui est créé pour laver le linge, ou tu peux commencer à décortiquer la machine et puis expliquer le moteur, comment il fonctionne, machin, truc et tout ça. Et puis voilà. Donc, moi, je reviens à l'utilité. Bah, la machine à laver le linge, c'est une machine qui lave son linge de manière automatique, en utilisant l'électricité, je ne sais pas quoi. Bref. Donc, si je prends l'argent, je reviens à l'utilité de l'argent pour moi, là, parce que c'est important, parce que là, la dérive en lien avec l'argent, elle est vraiment à cet endroit-là pour moi. Une mécompréhension sur pourquoi on a créé de l'argent. L'argent a été créé au départ pour faciliter les transactions entre un acheteur et un vendeur. C'est-à-dire, à un moment donné, plutôt que faire du troc où chaque fois on cherche une contrepartie, on passe par un intermédiaire. Et l'argent est un intermédiaire extrêmement pratique puisqu'on peut le réutiliser. De le faire circuler de manière très simple, puisque on peut dire à quelques exceptions près, tout le monde l'accepte. Tu vois? Je veux dire, à un moment donné, si je recevais, je prends un exemple, si quelqu'un me paye des tasses de poterie, puis à un moment donné, je n'aurais plus à qui repasser mes tasses de poterie, je serais embêté avec ça. Alors qu'avec l'argent, c'est très facile, tout le monde à peu près l'accepte, et puis on peut le faire circuler. Donc c'est vraiment un facilitateur qui me fait gagner énormément de temps dans plein de transactions que je peux avoir avec des gens. Et puis la deuxième utilité de l'argent, c'est que c'est un étalon commun ou un repère commun qui permet de donner de la valeur à un certain nombre de choses. À un moment donné, eh ben, tu veux acheter justement un nouveau lit, tu vas dire, OK, il y a plusieurs sortes et tout, ceci me plaît bien. Et quelle est la valeur qu'on a donnée à ce truc-là, à ce lit-là? On va dire, ben, c'est le prix de tant de centaines d'euros, par exemple. Donc, on donne la valeur dans lequel il y aura transaction possible et on doit trouver un langage commun. Parce que si dans des contrées reculées, un, il donne un prix en bottes de foin et puis l'autre en tête de bétail, ça va être difficile de se mettre d'accord si on ne parle pas le même langage, tu vois. Donc, pour se mettre d'accord, on doit parler le même langage. Donc, notre société, c'est beaucoup le langage argent aujourd'hui. Mais ça pourrait être le langage heure ou le langage autre chose, c'est égal. Ce qui compte, c'est qu'on a un langage commun. Donc, l'utilité de l'argent, c'est ça. Et au fond, si on regarde ça, l'argent, dans ce sens-là, nous facilite quand même beaucoup la vie, puisque d'aller boire son café ou d'aller acheter son journal, enfin, c'est un mauvais exemple parce que j'ai plus envie d'acheter une journée aujourd'hui, des magazines, disons, voilà, ou de, enfin, quelles que soient les choses, même les petites choses qu'on fait, les plus grandes choses, de juste passer par l'argent sans devoir dire, oh là là, qu'est-ce que je vous donne en contrepartie, madame, etc., je ne sais pas quoi, c'est quand même bien, bien facile. Mais simplement, si tu veux, pour finir avec ça, c'est que le problème qu'on a avec l'argent aujourd'hui, c'est que c'est comme si j'attendais que ma machine à laver le linge, elle me fasse du café. C'est un très mauvais plan parce qu'elle n'a pas été conçue pour ça, elle en est absolument incapable. Et au fond, avec l'argent, on attend de l'argent ce qu'il est incapable de faire. C'est-à-dire, on attend de l'argent qui nous sécurise, on attend de l'argent qui nous rende libre, on attend de l'argent qui nous rende heureux, mais on attend de l'argent pour certains, c'est des choses positives, mais d'autres s'attendent que pour eux, l'argent, c'est créer des sources de conflits. L'argent a causé des problèmes dans le monde. L'argent représente l'injustice. Donc, tu vois, comme si l'argent pouvait créer de l'injustice ou pouvait créer le bonheur, eh ben, l'argent ne peut rien de tout ça. Le bonheur, il est en moi. La sécurité, elle est en moi. La liberté, elle est en moi. Si j'ai des conflits de ma vie, c'est parce que, d'une certaine manière, je veux bien des conflits, que ce soit des conflits en lien avec l'argent, que ce soit en lien avec l'éducation des enfants. Tu vois, je prends l'exemple. Si on a des conflits par rapport à l'éducation des enfants, on ne va jamais dire c'est la faute des enfants s'il y a du conflit. Mais quand il y a des problèmes d'argent, on va dire c'est la faute de l'argent. J'entends ça souvent, c'est quand même bizarre. Donc, à un moment donné, l'argent n'a aucun de ces pouvoirs-là. L'argent est juste cette invention-là, bien pratique, point final. Mais nous avons vraiment, nous avons commencé à avoir un regard complètement faussé sur ce qu'on croit que l'argent peut créer ou pas. Et l'argent peut absolument rien créer de tout ça. Il n'a pas été créé, d'ailleurs, inventé pour ça.
Ouais, et va juste pour terminer, c'est vrai que lors de l'atelier dont je te parlais, auquel j'ai pu participer sur ma relation à l'argent, j'ai été vraiment étonnée, enfin étonnée et en même temps pas étonnée, mais du nombre de projections qu'on fait en fait sur ce
Bien
petit
sûr.
bout de papier. Vraiment, on avait mis au centre du cercle un petit bout de, enfin un billet de 50 euros. Et en fait, voilà, de voir collectivement même tout ce qu'on projette là-dessus, enfin, c'est interpellant. C'est
Ouais,
interpellant.
absolument. Et c'est pour ça, justement, pour reprendre un peu pour boucler la boucle, reprendre le début de ta conversation et de ce que tu vivais là maintenant, tu vois, c'est que si je pense que moi, j'ai pensé pendant 10 années que l'argent, c'est la sécurité, ou que l'argent, c'est la survie, c'est clair que si je projette ma sécurité sur l'argent, ma survie sur l'argent, dès que l'argent n'est plus là, j'ai l'impression que je vais crever ou j'ai l'impression que ça génère de l'insécurité, mais la sécurité, en ce qui me concerne, qui était déjà tout le temps présente, et que j'essayais de compenser en allant chercher quelque chose d'extérieur. Ça, c'est encore un
Un autre
autre.
sujet. Chouette, bien. Bah écoute Christian, peut-être juste nous partager le titre de ton livre parce que moi, enfin où je le partage parce que moi je l'ai lu et je le trouvais vraiment super précieux et très accessible à tout le monde en fait.
Oui, je crois que c'était vraiment l'idée, hein, qu'il y ait beaucoup d'exemples, que vraiment, et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de gens qui ne sont pas du tout dans l'idée du développement personnel ou des gens qui disent waouh, mon mari, mon fils ou ma fille, ils ont lu le bouquin alors que avec facilité, alors que ce n'est pas leur style. Donc je pense effectivement qu'il est bien accessible et qu'il peut permettre des beaux échanges, des belles discussions en famille, entre autres, mais pas que.
Oui, donc pour ceux qui ont envie de se le procurer, il s'agit du livre de Christian Junot, donc Ce que l'argent dit de vous aux éditions Erol. Voilà.
Merci.
Merci Christian. Est-ce que tu avais envie de voilà de rajouter quelque chose pour clôturer cet
Peut-être juste
échange?
un mot, peut-être parce que aussi, ça sera aussi en lien avec ce que tu vis, mais parce que c'est-à-dire que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Et si c'est le cas, c'est qu'on a vraiment à aller voir son rapport à l'argent parce que je rencontre énormément de gens qui ont des projets de cœur, qui ont des vraies envies et qui n'osent pas pour des questions d'argent. Donc c'est du gâchis. Parce que je crois au plus profond de moi que nous avons tous un diamant à l'intérieur de nous. Ce diamant ne demande qu'à rayonner. Donc, et que si nous allons tous rayonner le qui nous sommes, notre société sera bien, bien plus joyeuse qu'elle l'est pour l'instant. Donc, faisons en sorte effectivement de nettoyer ce qui peut être nettoyé pour pouvoir offrir ce meilleur de nous.
Merci Christian. Ça, je le prends. Bien, je vais enregistrer, enfin, je vais stopper l'enregistrement ici. Je te retrouve juste derrière pour te remercier en conscience et clôturer ce podcast avec toi. Voilà, et pour les personnes qui ont écouté ce podcast, eh bien, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai pris de plaisir à interviewer Christian. Voilà, et si vous êtes intéressé de suivre mes ateliers et les séjours que je propose pour se relier à ce qui est vivant en soi et autour de soi dans les Alpes en France, eh bien, je vous invite à faire un tour sur mon site www.hélènelaviolette.com. Merci pour votre écoute.
Au revoir.
Au revoir.